Chapitre 4. Oui, ça doit vous surprendre que je sois à l'intérieur, reprit Wallenberg une fois qu'ils se furent installés. Mais à l'Éducation nationale, il y a eu un changement de ministre. On m'a réformé à mon tour. D'ailleurs, j'en avais assez des professeurs et de leurs jérémiades. Vous me direz qu'ils sont mal payés. Erreur. Ils le sont encore trop à mon gré. A-t-on jamais vu une société payer aussi largement les gens qui contribuent à la faire sauter? Les Russes et les Chinois ne sont pas si bêtes. Nous nous en mordrons les doigts avant peu. Alors, ici, je me change les idées. Après la réforme, c'est la répression. C'est-à-dire, en somme, que je lutte maintenant de toutes mes forces contre la gabegie que j'ai contribué à créer. Les étudiants n'ont qu'à bien se tenir à la rentrée, car Wallenberg sera prêt à les accueillir. À fourgons ouverts. Regardez ces dossiers. Le rouge, je me demande parfois si le violet n'aurait pas mieux convenu, est celui des ecclésiastiques révolutionnaires. Il faut vraiment que leurs églises soient vides. Il y en a qui vendent leurs calices pour se payer des cocktails Molotov. Il n'y a plus que le baptême de sang qui les intéresse. Mao a remplacé Saint Paul. Si vous en rencontriez certains au coin d'une rue, vous auriez l'impression de tomber sur des guenons échappés de Vincennes. Je parle de la faculté, bien entendu. Pendant des siècles, ils ont senti l'encens, et maintenant ils empestent les gaz lacrymogènes à 15 mètres. Ils me font pleurer, ces croque-morts en salopette. Ils changent de canon comme de maîtresse, et leurs évêques ont troqué la mitre pour la mitraillette et le goupillon pour la goupille. À force de caresser leurs crosses, ils se sont pris pour des légionnaires. Ils se croient affranchis, alors qu'ils n'ont jamais été aussi prisonniers des mythes d'une époque. Ils veulent lutter contre le totalitarisme du gouvernement, mais ce sont eux les vrais représentants du totalitarisme. Quand l'intolérance prétend donner des leçons de tolérance et de liberté, il ne nous reste plus qu'à rigoler. L'Église révolutionnaire, c'est nouveau, ça. Autant demander aux politiciens que nous sommes de donner des leçons de morale aux enfants de cœur. Ce qui, mon cher professeur, ne nous éloigne en rien du sujet qui nous préoccupe. Attendez un instant. C'est ce dossier jaune. Votre fils a été victime d'un attentat politique d'extrême gauche. Des éléments incontrôlés, comme on dit. Au reste, Philippe Bayot n'est pas inconnu de nos services. Il figure à nos fichiers depuis février 1968, époque où il est devenu militant d'Occident. Interpellé 3 fois en mai 1968, il a été relâché après quelques heures. Comment ai-je pu l'ignorer? Oh, vous n'êtes pas le premier père à ignorer les activités de son fils, surtout qu'il est majeur. Certains de nos ministres même, enfin passons, juin 1968, lors d'une bagarre à Vincennes, opposant gauchistes et nationalistes musclés, il est légèrement blessé. À nouveau noté sur nos dossiers, mais rien de précis ne peut être retenu contre lui. Il est donc rapidement relâché. Il faut dire que nous étions alors débordés, et que si nous avions dû garder tout le monde, les halles de Rungis n'y auraient pas suffi. Octobre 1968. Nouvelle interpellation, à Nanterre cette fois. Le 28 octobre, son nom est cité lors de l'attentat contre la librairie chinoise de la rue Gillecoeur. Quel attentat? Vous ne lisez donc jamais les journaux? Ma foi, non. Wallenberg ne put cacher un mouvement d'irritation. Vous n'aurez qu'à consulter une collection. Octobre 1968, c'est l'époque où la presse bien pensante réclamait à corps et à cri la dissolution d'Occident. À force de se regarder dans une glace, ces gens-là voient des nazis partout. Soit dit en passant, les rigolos d'Occident valent bien les marioles de l'autre bord. Il pouffa de rire et se saisit d'une feuille dactylographiée qui se trouvait sur son bureau. Bref, depuis la dissolution d'Occident, votre fasciste de fils unique fait de l'apostolat aux bouches du métro. Rien de bien grave. Quelques interpellations sans importance. Du reste, pour ne pas se faire interpeller aujourd'hui, il faut être sourd de naissance. Seulement, l'ennui, c'est l'attentat d'hier soir. Des policiers en civil suivaient depuis quelques minutes votre Philippe et ses petits copains, qui s'arrêtaient de temps en temps pour coller leurs affiches. La Peugeot est arrivée sans crier gare. D'ailleurs, qui se serait méfié d'une voiture à bout de souffle? Ah, si ça avait été une Alfa Romeo! Enfin, ils ont pu appeler tout de suite une ambulance, c'est déjà ça. L'ennui, c'est que ces crétins, toujours prêts à se faire mousser, ont prévenu la presse. En un sens, ils ont été prudents. Ils n'ont pas parlé de l'aspect politique du problème, et ils ont même pensé, je m'en étonne, à enlever les affiches qui étaient restées sur le trottoir. Seulement tout le monde sait maintenant que le fils du professeur Bayot a été victime d'un mystérieux attentat. C'est passé ce midi à la radio. Vous avez vu les informations télévisées ce soir ? Courcelles-Fessac a fait son numéro. Ouin, 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 ouin. Opération fort délicate, pronostic réservé, secret professionnel. Le cirque habituel. Et quand je pense que ce sont des rigolos pareils qui votent pour nous. Mais je ne vois pas en quoi je puis vous être utile, demanda Bayot en allumant une cigarette. Wallenberg fit la grimace. C'est simple. Je voulais simplement m'assurer que vous n'aviez rien déclaré à la presse. Votre femme était dans mon bureau il y a moins d'une heure. Le comble, c'est qu'elle soit journaliste. Raison de plus pour ne rien lâcher. Alors voilà, nous avons mis sur pied un scénario. Règlement de compte entre services spéciaux arabes et israéliens. Votre fils était là par hasard. Les agresseurs se sont trompés de victime. Comme l'affaire est censée avoir foiré, on va dire que ce sont les Arabes qui ont fait le coup. Je ne suis pas raciste, mais j'adore le paraître. Histoire de donner de l'urticaire aux gardes-chiourmes de la moralité internationale. Et puis, que voulez-vous ? J'ai été un de ceux qui ont mijoté jadis la petite affaire des mirages. Il est bien naturel que de temps en temps je me rachète un peu auprès de mes coreligionnaires. Façon de parler, puisque je ne crois ni en Dieu ni en Marx. Ça devrait passionner l'opinion publique, vous ne croyez pas ? Elle en a grand besoin, car les feuilles d'impôt commencent à tomber dans les boîtes aux lettres. Les journaux s'en donneront à cœur joie pendant 24 heures, puis ils abandonneront. Surtout qu'il y a toujours l'affaire Kennedy et le voyage du pape en Ouganda pour les occuper. Dès que j'ai été mis au courant, j'ai voulu étouffer l'affaire, poursuivit-il d'un ton confidentiel. Mais il était trop tard. Il fallait donc trouver un dérivatif. En attendant, essayez de raisonner un peu votre rejeton. À force d'étouffer des affaires, nous n'aurons plus de place dans les vies d'ordures. Je viens d'y enterrer une petite histoire de ballet qui, pour être rose, n'en était pas moins piquée des vers. Je crois que Philippe est guéri de la politique pour quelque temps, murmura le médecin en souriant. Tant mieux, surtout qu'il a choisi la mauvaise carte. Qu'il se fasse donc gauchiste s'il tient vraiment à jouer les athlètes. Rien de plus irritant que ces gens qui marchent à contre-courant. Les gauchistes, c'est clair, on cogne et on ramasse à la pelle. En attendant que les rôles soient inversés. Avec les naïfs comme votre fils, on a des scrupules, enfin un tout petit peu. Mais il faut bien satisfaire les pisse-vinaigres et les pisse-copies. Notez bien, mon cher professeur, que dans mon fort intérieur, je partage certaines des idées de votre fils, même si j'aborde ses méthodes de mousquetaire à la manque. Seulement, si je suis encore dans les ministères, c'est bien parce que je ne rate jamais une occasion pour faire de l'œil à la gauche. Justement, envoyez donc votre fils perfectionner son russe à Leningrad. Il y apprendra les déclinaisons et la discipline. Ou alors, mariez-le vite. Rien de tel que le mariage et les voyages pour remettre en place les illusions. Mais je ne vous demande pas de nouvelles de votre livre. Bayot eut un geste de surprise. Mon livre ? Eh bien oui, ce fameux bouquin qui va vous valoir le prix Nobel. Ah, c'est vrai, j'oubliais. J'imagine que l'intérieur a déjà la photocopie des premières pages. Wallenberg se renfrogna. Malheureusement, mon cher, la photocopie dans mes services n'en est encore qu'à ses débuts. À propos, je me suis arrangé pour glisser votre nom dans le prochain contingent de la Légion d'honneur. Ce sera le petit cadeau de Wallenberg dans votre sabot de Noël. Et vous, au moins, vous l'aurez mérité. Bayot fut pris d'un rire qu'il eut du mal à réprimer. Car il pensait que cette Légion d'honneur à titre posthume aurait été un magnifique point final à la farce de son existence. C'est tout l'effet que ça vous fait, s'étonna Wallenberg. Si vous saviez le nombre de mendigots qui viennent ramper devant moi pour que je leur obtienne le ruban rouge. Excusez-moi, je pensais qu'il y avait mieux à faire. En ce qui me concerne, je préférerais avoir la Légion d'honneur après la publication de mon livre. Ce sera comme vous voulez. En revanche, j'aurai un petit service à vous demander. Je vous écoute. Barrez mon nom, et mettez à la place celui de mon confrère le duc Yves de Lambert. Ce sont ces travaux qui m'ont permis de progresser dans mes recherches. Le duc Yves de Lambert. Fort bien. J'en toucherai deux mots lors d'un cocktail à l'un des barons du régime. Bayot s'était remis à rire, car il songeait que cette légion d'honneur tombée du ciel serait la meilleure farce qu'il eût jamais faite à Lambert. Wallenberg se dirigea vers la fenêtre et écarta les rideaux. Les chiens de garde sont toujours là. Il va falloir sortir par une porte dérobée, car entre-temps ils ont dû apprendre, Dieu sait comment, que c'était vous qui veniez d'entrer au ministère. Vous avez encore des portes dérobées ? Vous savez, mon cher professeur, quand on rentre dans un ministère, la première chose à faire est de repérer les issues de secours. Peu pressé de rentrer chez lui, Bayot remonta la rue d'Amsterdam en direction de la place Clichy, où il gara sa voiture. Depuis plusieurs jours, il s'était promis de rendre visite à Jeannine, l'hôtesse qu'il avait rencontrée le soir du 16 juin et dont la fille était morte de la leucémie à Quimper. Il était encore trop tôt, 10 heures environ. Bayot pensait qu'il lui serait plus facile de lui parler alors, plutôt qu'à une heure plus avancée de la nuit. Une fois dans le bar, rue Victor Massé, on lui apprit que Jeannine ne travaillait pas le dimanche soir. Il montra sa carte, expliqua qu'il venait au sujet de sa petite fille, et la gérante du bar ne fit aucune difficulté pour lui donner l'adresse de la jeune femme. Elle vivait d'ailleurs à deux pas de là, rue de Navarin. 5 minutes plus tard, Bayot frappait à la porte d'un appartement au 3e étage d'un grand immeuble. Elle ne le reconnut pas tout d'abord. Mais quand Bayot eut décliné son identité, elle le fit immédiatement entrer dans la pièce. « Comme c'est aimable à vous d'être venu, docteur. » J'aurais préféré passer plus tôt, mais quand j'ai téléphoné le lendemain même de notre rencontre, j'ai su qu'il était trop tard. Oui, j'ai pris le premier train pour Quimper. Ma petite a été enterrée là-bas. On m'a affirmé qu'elle n'avait pas souffert. Elle est morte en serrant son ours dans les bras. Elle n'a pas dû souffrir, en effet. Ce genre de maladie, heureusement, présente au moins cet avantage. Mais pourquoi ne m'a-t-on pas prévenu plus tôt? Il y avait sans doute d'autres analyses à faire. L'évolution de la maladie est souvent plus rapide qu'on ne le croit. Et puis les médecins ont toujours du mal à dire ces choses-là. Les docteurs sont parfois bien durs. Ils font ce qu'ils peuvent. Il faut avoir souffert soi-même pour comprendre ce qu'est vraiment la maladie. Vous devez avoir beaucoup souffert, docteur, pour nous comprendre aussi bien. Non, je dois dire au contraire que jusqu'au 16 juin, je n'avais pas beaucoup réfléchi à ce qu'était un malade. Depuis ce 16 juin, tout a changé. Vous voulez dire depuis le soir vous m'avez vu? Ce jour-là n'était pas comme les autres. Quelques heures avant de vous rencontrer, j'avais appris que j'allais moi-même mourir. La femme regarda fixement le médecin. En un sens, vous avez de la chance. Vous ne savez pas comme j'ai souvent envie de mourir. Vous, quand vous voudrez, vous pourrez en finir sans problème. Moi, j'ai essayé une fois avec le gaz. L'odeur était horrible. Je me suis précipité vers la fenêtre. Cela ne vous intéresse plus, de vivre? Avant, il y avait encore ma fille. Je me disais que ce que je faisais servirait au moins quelque chose. Je m'imaginais que j'aurais pu en faire quelqu'un. On a beau être une putain, on a ses rêves. Peu importe ce qu'on est en apparence. Ce qui compte, c'est ce qu'on est vraiment, au fond de soi. Oui, vous parlez comme les curés à l'église. Ils racontent l'histoire de Marie-Madeleine pour faire pleurer les gens. Et puis, dès qu'ils vous croisent dans la rue, les chrétiens sont comme les autres, prêts à vous suivre ou prêts à vous cracher au visage. Il me serait facile de vous trouver un travail. Peut-être, mais je n'ai pas envie de changer. Je suis comme je suis. Tout ça, c'est de ma faute. Je bois trop, beaucoup trop. Il y a des jours de cafard, alors je n'ai de goût à rien. Je ne vous raconterai pas ma vie. J'ai fait toutes sortes de travaux, mais je n'ai jamais pu me fixer. Je n'avais plus qu'à me vendre. C'est la seule chose que je sais bien faire. Ce qui comptait, c'était ma fille. Il y a des jours où je me dis que Dieu m'a abandonné. Pourtant, docteur, j'ai toujours gardé confiance en la Sainte Vierge. C'est elle que j'ai priée quand ma fille était malade. J'avais confiance. Pourtant, je n'étais pas plus bête qu'une autre. J'ai même passé mon BEPC. Mais j'ai tout raté. C'est de ma faute. Les hommes nous prennent pour des chiennes. Après tout, ils ont peut-être raison. J'ai fait la chandelle pendant 2 ans, et maintenant je travaille dans un bar. C'est moins dur, mais on boit trop. Vous ne rêvez jamais de vous marier? Parfois, peut-être. Je ne sais plus. Franchement, je crois que c'est trop tard. Je suis trop indépendante maintenant. Pourtant, ça ne serait pas si difficile que ça. Des hommes, on en voit de tous les genres, même des gens bien, même des gens très bien, comme vous. Il va falloir que je parte, murmura Bayot. Il est tard et je suis très fatigué. La femme voulut le garder plus longtemps, mais il refusa et disparut après lui avoir souhaité bonne chance. Pigalle brillait de tous ses néons. On l'invita plusieurs fois, alors qu'il remontait le boulevard de Clichy, à pénétrer dans des bars où des spectacles apparemment alléchants attiraient de nombreux badauds étrangers. Des boutiques offraient leur étal de pornographie et d'instruments savants dont Bayot ignorait l'usage. Un noir lui proposa de l'emmener à une séance privée de cinéma érotique. Il se contenta d'un cornet de frites. Quand Bayot vit qu'un groupe de journalistes l'attendait devant chez lui, il poursuivit sa route et s'arrêta au premier hôtel. Il demanda du papier à lettres et une enveloppe et gagna sa chambre. Paris, 3 août 1969. Mon cher Dorjal. J'ai bien l'impression que c'est moi qui vais remporter le sprint dont tu parlais l'autre jour. J'aperçois la ligne d'arrivée et j'espère avoir assez de souffle d'ici là. C'est dans l'ordre des choses. Te souviens-tu que c'était toujours moi qui te battais à Chauvigny quand nous faisions la course entre Notre-Dame et la ville haute? Depuis notre retour du Kenya, les événements se sont précipités à une telle allure que j'ai du mal à y voir clair. Ces événements ne t'intéresseraient guère, et je voulais simplement, sans grand ordre, comme d'habitude, à saut et à gambade, comme dirait mon vieil ami Montaigne, répondre à ce que tu disais l'autre jour. Je crois que je vais mourir sans aigreur et sans amertume, mais aussi sans regret. Pendant longtemps, je me suis dit que j'avais raté ma vie. C'est ce même sentiment que j'ai cru découvrir chez toi l'autre jour. Je crois que tout ça ne veut pas dire grand-chose. J'ai contemplé aujourd'hui, au hasard d'un de ces événements que je n'ai pas le courage de te raconter, le symbole même de la réussite, celui dont presque toutes les femmes rêvent, la puissance, le succès, l'adoration des foules et des folles, la compétence technique et sans doute la Légion d'honneur. Il est sûrement persuadé de servir la grande cause de l'humanité. Jamais celle-ci n'a eu autant de personnes à vouloir s'occuper d'elle, et jamais elle n'a été aussi mal servie. Ajoute à cela la bonne conscience bourgeoise et le nœud papillon. J'ai un faible pour les nœuds papillons, car quoi de plus vain et de plus inutile qu'un papillon? Et tu aurais le portrait du bonhomme. Sois sûr que je préfère des gens comme toi, comme Lambert, comme cette prostituée que j'ai rencontrée tout à l'heure. Non, pas pour ce que tu penses. Les antimitotiques me rendent d'ailleurs peu à peu impuissant. Raison de plus pour en finir. Nous ne sommes que de pauvres ratés, c'est-à-dire des hommes, alors que les autres ne sont que des polichinelles en smoking. Et si, d'un certain côté, j'aimerais bien qu'il se produise une révolution en France, c'est parce que j'espère que ces baudruches-là seront les premières à crever. Mais ils commencent à sentir le vent, ces Olibrius. Il ne faudra pas s'étonner s'ils viennent un jour opérer en bleu de travail. Il y en a qui subventionnent déjà des feuilles à la mode et leur nom paraît chaque semaine au bas de quelques pétitions. Si tu les avais vus en mai 1968, ils se faisaient appeler par leur prénom et se laissaient pousser la barbe. Le jour d'après, ils étaient tous dans la rue derrière la croix de Lorraine. Depuis, ils suivent avec attention la météo. À côté de ça, il y a des jeunes, comme ton professeur Bostan, comme mon fils, comme tes enfants peut-être, qui essaient de comprendre quelque chose et se cognent au problème que nous n'avons pas su résoudre. C'est maintenant leur affaire. Ils s'en tireront aussi bien que nous, mais ils ne feront pas mieux, bien qu'ils soient persuadés du contraire, ce qui est normal. À leur âge, souviens-toi, nous allions vendre les journaux de la bonne presse à la porte de Saint-Pierre après la messe, et nous faisions des neuvaines pour la conversion de la Russie. Ça n'a d'ailleurs pas été inutile, puisque les Russes et les Américains joueront bientôt au baseball ensemble. Cette lettre sera sûrement la dernière que je t'écrirai. Je pense toutefois me rendre à Chauvigny jeudi prochain, et je t'enverrai une carte. Ça fait 10 ans que je n'y suis pas allé, et je ne te cacherai pas que j'accomplirai ce voyage avec émotion. Où est-il le temps où nous jouions à Tarzan dans les ruines du château? La maladie suit son cours, et j'ai eu une alerte assez sérieuse hier soir. Chantal est partie rejoindre Corinne à la confrérie des femmes martyrs. En un sens, c'est dommage, mais il y a des circonstances où il faut savoir être seul. Je t'embrasse, Jean-Louis. Le professeur Bayot eut du mal à trouver le sommeil. Il ne ressentait aucune souffrance, mais son état d'extrême fatigue lui montrait clairement que le mal avait fait son œuvre. Bayot avait profité de son passage à Pigalle pour s'arrêter dans une pharmacie. La balance avait indiqué une nouvelle chute de poids. Et il se demandait s'il aurait la force de tenir jusqu'à sa mise en disponibilité en novembre. Cela lui semblait naturel de se retrouver ainsi dans une chambre d'hôtel. Toute sa vie, il avait été ce voyageur en marche pour une destination qu'il ne connaissait pas. Le but était proche désormais. Et comme Chantal l'avait deviné, le seul lien qui l'unissait encore à la vie était l'amitié qu'il avait pour Lambert. Celui-ci avait compris que plus rien ne le ferait changer d'avis. Ils avaient partagé tant d'aventures et de confidences, ils avaient découvert tant et tant de choses par leur travail en commun, qu'ils savaient bien, l'un et l'autre, que l'essentiel avait été dit. Il ne restait plus qu'à conclure. Il ne regrettait guère le départ de Chantal. Sans doute l'avait-il aimé profondément, et sa présence à ses côtés, lors de leur voyage au Kenya, aurait été une des dernières joies de son existence. Mais pour le vieux loup solitaire qu'il était, rien ne serait préférable à une fin lucide et sans spectateur. Il sentit ce soir-là qu'il en avait fini avec la horde. Dans les jours qui allaient suivre, il tenterait, autant que ses forces affaiblies le lui permettraient, de poursuivre son travail à l'hôpital, d'échanger quelques plaisanteries avec les jeunes internes, de réconforter les malades. Seul compterait désormais ce voyage à Chauvigny et les longues discussions qu'il aurait encore avec Lambert. Sans doute dirait-il aussi à Philippe qu'il ne devrait plus maintenant compter sur leur rare rencontre rue de la Huchette. Mais cette heure n'était pas encore venue. Il ne fallait rien hâter, de crainte de compromettre la convalescence du jeune opéré. Bientôt la presse diffuserait la nouvelle de son décès. Il imaginait sans mal les nécrologies qui lui seraient consacrées. On insisterait sur sa brillante carrière, sur ses qualités pédagogiques, sur le traitement qu'il avait découvert pour soigner certaines leucémies, sur son dévouement professionnel et sa courtoisie. On ferait comprendre, en termes voilés, que sa vie familiale avait été moins heureuse. Et on ne manquerait pas de rappeler, dans un encadré, que son fils avait été récemment victime d'un mystérieux attentat. Ce jour-là, les crocodiles du corps médical, revêtus de leurs plus belles toges, viendraient pleurer à chaudes larmes leur éminent confrère. La plupart ne l'auraient jamais rencontré. Ils arriveraient pourtant des 4 coins de la France, tout à l'heureuse pensée de bénéficier ainsi d'une journée de congé et de pouvoir se congratuler, entre la levée du corps et le dernier coup de goupillon, de l'excellence de leurs importants travaux. François-Xavier Courcelles-Fessac serait au premier rang des personnalités, bombant un torse alourdi par les décorations. Le doyen de la faculté de médecine aurait passé une nuit blanche à fignoler son panégyrique, dont les meilleurs passages seraient reproduits par la presse et les revues spécialisées. David Wallenberg représenterait un gouvernement que Bayeux avait toujours exécré, comme tous les autres, et annoncerait peut-être que la Légion d'honneur lui avait été décernée à titre posthume. La télévision glisserait quelques images entre la dernière déclaration d'Edgar Faure et les publicités pour une nouvelle marque de sous-vêtements. On se demanderait qui prendrait sa place dans le service, et les pronostics iraient bon train. Corinne aurait revêtu son habit de deuil qui lui allait si bien. Elle serait arrivée in extremis d'un reportage au Koweït ou aux Caraïbes. Seule peut-être, perdue dans cette foule de tartuffes et de diafoirus, la petite Muriel se demanderait à quoi rimait cette grotesque mascarade. Les Français ont toujours aimé les enterrements, seule la mort des autres leur donne vraiment le goût de vivre. Il y aurait, bien sûr, il n'en doutait pas, un singulier absent au post-scriptum de son existence. Fâcheusement empêché par une angine ou une crise d'urticaire, le professeur agrégé de Lambert, dans la solitude de son appartement, emballerait dans des caisses à claire-voie ses dossiers, ses livres, ses instruments et la feuille jaunie de leur amitié.